le Club de Rome et l'OEF. Le groupe le plus influent qui a stimulé la création du symposium de Klaus Schwab était le Club de Rome, un groupe de réflexion influent de l'élite scientifique et monétaire qui reflète le Forum économique mondial à bien des égards, y compris dans sa promotion d'un modèle de gouvernance mondiale dirigé par un élite technocratique. Le club avait été fondé en 1968 par l'industriel italien Aurelio Pexei et le chimiste écossais Alexander King lors d'une réunion privée dans une résidence appartenant à la famille Rockefeller à Bellagio, en Italie. Parmi ses premières réalisations figurait un livre de 1972 intitulé « Les limites de la croissance », largement axé sur la surpopulation mondiale, avertissant que si les modes de consommation et la croissance démographique du monde se poursuivaient au même taux élevé de l'époque, la Terre atteindrait ses limites d'ici un siècle. Lors de la troisième réunion du Forum économique mondial en 1973, Pexei a prononcé un discours résumant le livre, dont le site internet du Forum économique mondial se souvient avoir été l'événement marquant de cette rencontre historique. Cette même année, le Club de Rome publiera un rapport détaillant un modèle adaptatif de gouvernance mondiale qui diviserait le monde en 10 régions économiques/politiques interconnectées. Le Club de Rome a longtemps été controversé pour son obsession de réduire la population mondiale, et nombre de ses politiques antérieures, que les critiques décrivaient comme influencées par l'eugénisme et le néo-malthusien. Cependant, dans le tristement célèbre livre de 1991 du Club, The First Global Revolution, il a été soutenu que de telles politiques pourraient gagner le soutien populaire si les masses étaient capables de les lier à une lutte existentielle contre un ennemi commun. À cet effet, The First Global Revolution contient un passage intitulé « L'ennemi commun de l'humanité est l'homme », qui déclare ce qui suit. Signe inférieur en cherchant un ennemi commun contre lequel nous pouvons nous unir, nous avons eu l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, les pénuries d'eau, la famine, etc. feraient l'affaire. Dans leur totalité, et leurs interactions, ces phénomènes font l'affaire. Constituent une menace commune à laquelle tous doivent faire face ensemble. Mais en désignant ces dangers comme l'ennemi, nous tombons dans le piège, dont nous avons déjà averti les lecteurs, à savoir confondre les symptômes avec les causes. Tous ces dangers sont causés par l'intervention humaine dans les processus naturels, et ce n'est que par des changements d'attitude et de comportement qu'ils peuvent être surmontés. Le véritable ennemi est donc l'humanité elle-même. Dans les années qui ont suivi, les élites qui peuplent le Club de Rome et le Forum économique mondial ont souvent soutenu que les méthodes de contrôle de la population sont essentielles pour protéger l'environnement. Il n'est donc pas surprenant que le Forum économique mondial utilise de la même manière les questions de climat et d'environnement comme un moyen de commercialiser des politiques autrement impopulaires, telles que celle de la grande réinitialisation, si nécessaire. Le passé est prologue. Depuis la fondation du Forum économique mondial, Klaus Schwab est devenu l'une des personnes les plus puissantes du monde et sa grande réinitialisation a rendu plus important que jamais l'examen de l'homme assis sur le trône mondialiste. Compte tenu de son rôle de premier plan dans l'effort de grande envergure visant à transformer chaque aspect de l'ordre existant, l'histoire de Klaus Schwab était difficile à rechercher. Lorsque vous commencez à fouiller dans l'histoire d'un homme comme Schwab, qui est assis dans les airs d'autres déménageurs, et chaque heure d'élite ténébreux, vous découvrez bientôt que beaucoup d'informations ont été cachées ou supprimées. Klaus est quelqu'un qui veut rester caché dans les coins sombres de la société, et qui ne permettra qu'à la personne moyenne de voir une construction bien présentée de la personnalité de son choix. Le vrai Klaus Schwab est-il un vieil oncle bienveillant souhaitant faire du bien à l'humanité, ou est-il vraiment le fils d'un collaborateur nazi qui a utilisé le travail des esclaves, et a aidé les nazis dans leurs efforts pour obtenir la première bombe atomique? Klaus est-il le chef d'entreprise honnête à qui nous devrions faire confiance pour créer une société et un lieu de travail plus juste pour l'homme ordinaire, ou est-il la personne qui a contribué à pousser Sulz et Chewiz dans une révolution technologique qui a conduit à son rôle dans la création illégale d'armes nucléaires pour le régime d'apartheid raciste de l'Afrique du Sud? Les preuves que j'ai examinées ne suggèrent pas un homme bienveillant, mais plutôt un membre d'une famille riche et bien liée qui a l'habitude d'aider à créer des armes de destruction massive pour des gouvernements agressifs et racistes. Comme l'a dit Klaus Schwab en 2006. La connaissance sera bientôt disponible partout, je l'appelle la googlisation de la mondialisation. Ce n'est plus ce que vous savez, c'est comment vous l'utilisez. Vous devez être un facteur de rythme. Klaus Schwab se considère comme un facteur de rythme et un joueur de premier plan, et il faut dire que ses qualifications et son expérience sont impressionnantes. Pourtant, quand il s'agit de pratiquer ce que vous prêchez, Klaus a été découvert. L'un des trois plus grands défis de la liste des priorités du Forum économique mondial est la non-prolifération des armes nucléaires, mais ni Klaus Schwab ni son père Jean n'ont respecté ces mêmes principes lorsqu'ils étaient en affaires. Plutôt l'inverse. En janvier, Klaus Schwab a annoncé que 2021 est l'année où le Forum économique mondial et ses alliés doivent reconstruire la confiance avec les masses. Cependant, si Schwab continue de cacher son histoire et celle des liens de son père avec la National Socialist Model Company qui était chez WIS dans les années 1930 et 1940, alors les gens auront de bonnes raisons de se méfier des motivations sous-jacentes de sa portée excessive et antidémocratique. Grand programme de réinitialisation. Dans le cas des Schwab, les preuves ne révèlent pas simplement de mauvaises pratiques commerciales ou une sorte de malentendu. L'histoire de la famille Schwab révèle plutôt une habitude de travailler avec des dictateurs génocidaires pour des motifs basiques de profit et de pouvoir. Les nazis et le régime d'apartheid sud-africain sont deux des pires exemples de leadership dans la politique moderne, mais les Schwab ne pouvaient évidemment pas ou ne voulaient pas voir cela à l'époque. Dans le cas de Klaus Schwab lui-même, il semble qu'il ait contribué à blanchir des vestiges de l'ère nazie, c'est-à-dire ses ambitions nucléaires, et ses ambitions de contrôle de la population, afin d'assurer la continuité d'un agenda plus profond. Tout en servant à titre de dirigeant chez Sulze et chez WIS, la société a cherché à soutenir les ambitions nucléaires du régime sud-africain, alors le gouvernement adjacent le plus nazi au monde, préservant l'héritage de l'ère nazie des chez WIS. Ensuite, par le biais du Forum économique mondial, Schwab a contribué à réhabiliter les politiques de contrôle de la population influencées par l'eugénisme pendant l'après-guerre, une époque où les révélations des atrocités nazies ont rapidement discrédité la pseudo-science. Y a-t-il une raison de croire que Klaus Schwab, tel qu'il existe aujourd'hui, a changé de toute façon? Ou est-il toujours le visage public d'un effort de plusieurs décennies pour assurer la survie d'un programme très ancien? La dernière question à se poser sur les véritables motivations derrière les actions de M. Schwab est peut-être la plus importante pour l'avenir de l'humanité. Klaus Schwab essaie-t-il de créer la quatrième révolution industrielle, ou essaie-t-il de créer le quatrième Reich?